Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Une manifestation en Irak pour dénoncer la hausse des prix des produits alimentaires de base, liée selon des responsables au conflit en Ukraine. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le sud du pays. Face à la tragédie vécue par les Ukrainiens après l'invasion russe, l'appel de l'Union des mosquées de France, un appel à participer au devoir de solidarité et d'assistance vis-à-vis des Ukrainiens. Nous écouterons le président de l'UMF, Mohamed Moussaoui. Invité de pluriel à 19h et 23h, et Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle évoque la situation en Ukraine, extrait dans votre édition. La mobilisation contre le pouvoir militaire ne faiblit pas au Soudan. Des milliers de manifestants anti-putsch ont protesté ce mardi à Khartoum sous les tirs de grenades lacrymogènes. Le président tunisien appelle à mener une guerre sans répit contre les spéculateurs qui visent à affamer les Tunisiens et à porter atteinte à la paix sociale, des mots de Kais Saied depuis le siège du ministère de l'Intérieur. Une première démission dans le gouvernement Bouden en Tunisie. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Aïda Hamdi, a quitté son poste. L'émergence, après les élections législatives, de nouveaux profils au sein des partis pour refléter la diversité sociale et académique de la France. Le souhait de Jasser Jebabli, cofondateur d'Open Politics, vous l'entendrez. Une manifestation s'est déroulée ce mercredi en Irak pour dénoncer la hausse des prix des produits alimentaires de base liée selon des responsables au conflit en Ukraine. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le sud du pays, dans la ville de Nassiriya. L'invasion russe de l'Ukraine précipite depuis 2 semaines les prix de l'énergie et des matières premières à des niveaux records. Le gouvernement irakien a dévoilé des mesures pour faire face à la hausse des prix à l'international, notamment une allocation mensuelle de $70 pour les personnes les plus démunies. La nette hausse des cours du pétrole et du gaz depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la crise énergétique actuelle, marquée par une flambée des prix, est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Face à la tragédie vécue par les Ukrainiens après l'invasion russe, l'appel de l'Union des mosquées de France, un appel à participer au devoir de solidarité et d'assistance vis-à-vis des Ukrainiens, le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui.
La situation est dramatique. Aujourd'hui, des centaines de victimes parmi les civils sont comptées, puis des centaines de milliers de réfugiés qui sont déjà arrivés en Pologne et dans les pays limitrophes. Et ce matin, j'entendais dire que au moins 5000 personnes déjà sont arrivées en France. Je pense que des musulmans de France doivent participer également à cet effort, à la solidarité, à l'assistance que nous devons aux réfugiés de toutes les guerres. Celle-ci est au cœur de l'Europe. Elle est malheureusement, après une dizaine de jours, on compte déjà 2 millions de réfugiés. C'est une situation catastrophique qui appelle la participation de tous. Donc nous avons appelé les musulmans de France à participer à l'élan de solidarité.
Et comment doit-elle se traduire, cette participation?
Nous savons très bien que les pouvoirs publics français, notamment dans le site Service Public, nous avons la liste des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui sont à l'œuvre pour porter aide aux réfugiés. Donc ça part des banques qui peuvent recevoir des dons d'argent, des associations qui reçoivent des denrées, des vivres, des associations qui aident les réfugiés à s'installer. Donc je pense que les associations musulmanes doivent se rapprocher de toutes ces organisations qui sont déjà à l'œuvre, qui ont une expérience, une organisation, et de les aider à faire face à la situation.
En tant que président de l'Union des mosquées de France, vous le ressentez d'ores et déjà, cet élan de solidarité?
Oui, je pense que, en tout cas, les musulmans de France ont à cœur d'apporter leur participation, comme tous nos concitoyens. Nous l'avons fait à l'époque lorsque les vagues de réfugiés syriens venaient en France. De nombreuses mosquées ont apporté leur soutien aux réfugiés. Des colis alimentaires ont été distribués à plusieurs occasions. Je pense à l'approche du mois de Ramadan, on est dans quelques jours, on sera en plein mois de Ramadan, c'est un mois de partage et de solidarité. Je pense que cette générosité, cette solidarité doit s'exprimer également dès maintenant et notamment pendant le mois de Ramadan à l'égard de tous les réfugiés et notamment les réfugiés ukrainiens qui vont malheureusement venir par milliers en France.
Et nous l'avons vu à Lyon, il y a un élan de solidarité interreligieux.
Tout à fait. La conférence des responsables du culte de France s'est réunie très prochainement, le 14 mars prochain. À l'ordre du jour de cette réunion, nous allons également voir ensemble ce que nous pouvons apporter comme aide interreligieuse aux réfugiés ukrainiens.
Le prêche de vendredi prochain sera notamment consacré à la situation en Ukraine.
En tout cas, nous avons appelé les fidèles à prier pour la paix, pour que les gouvernants de notre monde retrouvent les voies salutaires de la paix et de la concorde et qu'ils abandonnent les égarements de la guerre. Je pense qu'une guerre, lorsqu'elle commence, malheureusement, c'est la souffrance qui va avec. Et aujourd'hui, nous le voyons, les images malheureusement qui parviennent dans tous les foyers des Français et du monde entier montrent la désolation, la destruction, le déchirement des familles, des corps, des blessés. C'est la souffrance, c'est toujours la souffrance. Et nous devons, tant que croyants, intensifier, parce que nous croyons à la force de la prière, pour que la paix et la concorde s'installe au lieu de la guerre.
Le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, et Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. Marine Tondelier est conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle évoque la situation en Ukraine, extrait de cette émission.
Alors, vous savez que vous parlez à une écologiste et donc à quelqu'un, premièrement, qui est de tradition dans son ADN pacifiste et qu'évidemment, tout ce qui se passe en Ukraine nous touche beaucoup. Mais vous voyez, être pacifiste, ça ne veut pas dire laisser faire les agresseurs et les oppresseurs partout dans le monde. Et c'est vrai que les écologistes défendaient depuis longtemps une Europe de la défense, c'est-à-dire que la défense est forcément toujours un point important des programmes à la présidentielle, mais nous on estime que la force de l'Europe doit aussi faire qu'une défense commune permette de mettre en commun tout cela et de protéger mieux les frontières de l'Europe en mutualisant aussi les moyens. Il y a forcément des pays qui sont plus exposés vu leurs voisins que la France par exemple, et que avec une stratégie commune de défense, des investissements communs et des mises en commun, ça aurait permis d'être plus proactif là-dessus. C'est un sujet qui a beaucoup fait rigoler, qui a été combattu par beaucoup, et aujourd'hui voilà, on voit que ça revient sur la table et que en quelques jours on a pu passer des commandes communes et envoyer des armes de défense à l'Ukraine. Et donc je pense que la France et l'Europe font ce qu'elles peuvent dans une situation où elles ont peu de moyens, puisque c'est des discussions qui ont peu avancé ces dernières années. Si elles avaient plus avancé, on aurait pu faire encore plus, mais en l'état actuel des choses, je vois mal ce qu'elles pourraient faire de plus.
Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. Marine Tondelier, conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Le président tunisien appelle à mener une guerre sans répit contre les spéculateurs qui visent à affamer les Tunisiens et à porter atteinte à la paix sociale. Des mots de Kais Saied depuis le siège du ministère de l'Intérieur. La Tunisie, souligne-t-il, n'a jamais connu un tel phénomène, même en décembre 2010 et les mois suivants. Le chef de l'État tunisien qui indique qu'un décret présidentiel relatif au circuit de distribution sera incessamment prêt pour fixer les objectifs de la lutte contre la spéculation et la monopolisation. Une première démission dans le gouvernement Bouden en Tunisie. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Aïda Hamdi, a quitté son poste. Le président Kais Saied a accepté sa démission. La mobilisation contre le pouvoir militaire ne faiblit pas au Soudan. Des milliers de manifestants anti-putsch ont protesté hier à Khartoum sous les tirs de grenades lacrymogènes. Une manifestation peu après l'arrestation d'un opposant. Les manifestants ont brandi des drapeaux du pays et les portraits des 85 victimes de la répression lancée depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. Le syndicat des fonctionnaires d'électricité du Liban a appelé à une grève jusqu'au 15 mars prochain. Le syndicat dénonce, selon lui, l'indifférence affichée par les autorités à l'égard de ses demandes. Il demande notamment une hausse des salaires dans un pays frappé par une très grave crise socio-économique et financière. La pandémie de Covid-19 n'est pas finie et la distribution des vaccins sur la planète reste scandaleusement inéquitable. Un constat du secrétaire général de l'ONU, des propos d'Antonio Guterres dans un communiqué marquant le deuxième anniversaire du déclenchement de ce fléau mondial. mondiale. En France, le nombre de contaminations est en hausse, mais pour le moment, le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 baisse. Il est passé sous le seuil des 22 000. Après l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains, aura lieu le scrutin législatif. Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics, un incubateur politique, souhaite à cette occasion que de nouveaux profils émergent au sein des partis pour refléter la diversité sociale et académique de la France, avec un objectif aussi, la parité. Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics.
Et l'idée nous est venue avec mon cofondateur Antoine Juchins pour parler et pour travailler sur cette idée d'incubateur politique, parce que nous-mêmes, quand on était jeune, en tout cas il y a quelques années, on a participé à des élections. Et la participation à ces élections-là, pour moi en Tunisie et pour lui, pour les élections européennes avec Allons Enfants en 2019, n'était pas facile. C'était pas facile parce que pour nous, les partis politiques, c'était un peu des boîtes noires, on ne comprend pas forcément comment ça se passe, on ne comprend pas comment on peut influencer la vie publique, et beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui, beaucoup de jeunes, sont un peu désenchantés de cet engagement politique parce qu'ils ne comprennent pas comment ces partis marchent et parce qu'ils ne voient que un peu les magouilles, la politique politicienne dans le fonctionnement de ces organisations politiques. Donc l'objectif de la formation, c'est vraiment déjà de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à cet engagement-là, d'assurer une certaine diversité en allant chercher de nouvelles personnes qui sont éloignées de la politique et de la vie publique et associative, et surtout les former, leur donner les moyens pour qu'ils puissent peser dans cette vie politique et publique, et surtout pour pouvoir changer la donne de l'intérieur dans ces organisations politiques. Et je tiens à préciser que du coup, nous, on est un incubateur de formation politique gratuit, apartisan et indépendant. Gratuit parce que on ne veut pas écarter des personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour se former à la politique, comme d'autres écoles ou d'autres académies qui peuvent exister. On est apartisan. On invite des personnalités politiques de tout horizon, de tout background politique, des personnalités politiques de la droite, de la gauche et du centre. On a eu Najat de Belkacem, on a eu Nathalie Loiseau, on a eu Agnès Evren, la vice-présidente des Républicains. On invite des personnalités qui ont aussi de background plutôt technique, des conseillers discours de ministres, du premier ministre, des conseillers politiques du président de la République, des directeurs de cabinet de présidence de la République. Et l'objectif, c'est vraiment du coup d'assurer un certain débat avec des participantes et des participants à la formation qui n'ont pas forcément non plus les mêmes idées. Ils peuvent être aussi de droite, de gauche, non encartés, pas du tout intéressés par la vie des partis, mais finalement, ils sont là, elles et ils sont là pour pouvoir débattre, pour pouvoir aussi construire des choses en commun et pour pouvoir trouver des points en commun. Parce qu'on a remarqué que dernièrement sur la scène politique, on parle surtout de ce qui nous divise comme société. Et on ne parle jamais de ce qui nous unit comme nation. Et l'objectif de la formation, c'est de travailler aussi sur ça.
En 2017, la plupart des députés qui ont été élus étaient issus de milieux sociaux professionnels plutôt favorisés. Votre but, c'est qu'il y ait des députés venant de classes populaires en 2022 ?
Exactement. L'objectif, c'est... En 2017, on a remarqué qu'il y avait une certaine diversité de l'origine plutôt académique, parce que on était habitué à des députés qui venaient de Sciences Po, de l'ENA, qui venaient de l'administration publique, qui ont vécu plutôt dans des partis. En 2017, il y avait un changement de profil. On avait plus de consultants, d'ingénieurs. Mais finalement, comme vous l'aviez dit, en fait, c'est vraiment un niveau social, professionnel un peu élevé. Et l'objectif là, c'est vraiment d'aller plus loin, en fait, dans la démarche pour nous, et c'est d'aller chercher dans les territoires français déjà des jeunes et des citoyennes et des citoyens, indépendamment de leur âge aussi, qui pratiquent un peu la vie publique au quotidien dans leur métier et avec un contact humain concret pour qu'ils puissent porter leur combat au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat et demain peut-être au sein de conseils municipaux, de conseils régionaux et départementaux, parce qu'on essaie de travailler aussi sur le long terme. Donc par exemple sur la promotion 4, on a un jeune ouvrier qui n'a pas fait des grandes études et qui fait la formation pour comprendre la politique en premier temps et par la suite pour aller plus loin, pour du coup s'engager dans la vie publique et politique à travers des partis ou à travers des élections et des échéances à venir.
Vous êtes aussi sensible à la question de la parité en politique ?
Bien sûr, c'est un principe. Toutes nos promotions, on a commencé le 29 mai 2021, on est à la quatrième promotion, c'est-à-dire on est à 120 participantes et participants formés à la politique. Toutes nos promotions étaient paritaires, au même plus. On avait toujours, du coup, on a 53% du coup de femmes participantes à la formation et 47% d'hommes. Et ça, c'est important aussi, parce que on le voit dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il y a un problème aujourd'hui de parité dans ces chambres-là. Dans le conseil municipal et les conseils régionaux, il y avait des améliorations qui ont été faites. On l'a remarqué avec les différentes élections du coup en 2020 et en 2021. Mais là, il faut aller plus loin au niveau national. Il faut travailler sur cette parité-là. Et nous, l'objectif, c'est de donner plus de moyens aussi à ces femmes qui veulent s'engager, qui ont une valeur ajoutée et qui sont égales aux hommes aussi, qui peuvent s'engager. L'objectif, c'est de travailler ensemble pour qu'on puisse assurer cette parité-là et pour qu'on puisse accélérer l'engagement des femmes pour rattraper un peu ce retard-là au niveau de la parité et l'égalité femmes-hommes dans la politique.
Les partis politiques traditionnels jouent le jeu. Ils sont d'accord pour favoriser l'émergence de nouveaux profils à l'occasion de ces élections législatives.
Je me pense que nous on travaille beaucoup avec du coup des dirigeants de partis politiques qui viennent intervenir, qui viennent parler de leur retour d'expérience, de leur engagement. Ils sont favorables, bien sûr. Je pense que honnêtement, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ces partis politiques-là, et les dirigeants n'ont pas le choix. Aujourd'hui, les jeunes ont des nouvelles préoccupations, des nouveaux enjeux auxquels sur lesquels ils travaillent, qu'ils défendent, et pour pouvoir les traiter, pour pouvoir répondre à ces préoccupations-là, les partis politiques doivent intégrer de nouveaux talents, doivent intégrer de nouveaux visages et doivent intégrer surtout de nouvelles méthodes de travail. Et ces méthodes de travail-là, on ne peut pas les intégrer sans ces nouveaux visages. Et c'est ça l'objectif d'Open Politics, c'est d'assurer une émergence d'une nouvelle génération de leaders engagés partout pour qu'on puisse changer ces méthodes-là de l'intérieur. Et les partis politiques, je pense, on le voit, et peut-être on va le voir concrètement pour les élections législatives en 2022 au mois de juin, je pense que du coup dans tous les partis traditionnels, que ce soit les LR, le PS, LROM, qui devient aussi un parti plutôt classique, ils vont assurer du coup ce changement intergénérationnel au niveau de leurs leaders, au niveau de leurs candidates et candidats.
Yasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics, il répondait à Loïc Barrière, fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.